When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Salut à tous, bienvenue pour ce nouveau rendez-vous de Touchdown Actu, le rendez-vous consacré à la draft et aux besoins des franchises à l'orée du 29 avril prochain du côté de Cleveland. Et aujourd'hui, une franchise suivie de très près, une franchise qui espère, qui attend, qui envisage de rebondir après l'anomalie de la saison passée, les New England Patriots, donc 15e choix au premier tour notamment, avec une cascade de choix compensatoires derrière, on aura l'occasion d'y revenir. En tout cas, pour m'accompagner, Jean-Michel Boujard est avec moi. Salut Jean-Mi.
Hey, salut Greg, ça va ?
Ah bah là, je suis pas très très serein, hein. Tu t'en dis.
Ouais, il faut pas dire de bêtises aujourd'hui.
C'est
hein.
Ça, on est scruté de près. Blague à part, en tout cas, on va évoquer les besoins. J'en parlais notamment hier, on peut le redire, hein, forcément, les nombreuses signatures des Pats pendant la free agency, ça a au moins permis, dans l'optique de cette draft, d'avoir un peu moins de maux de tête d'un point de vue besoin. Quels sont pour toi les besoins prioritaires de la franchise de Foxborough?
Bah, le numéro 1, ça ressemble quand même au poste de quarterback. Alors, ok, Cam Newton pour 2021, il fera l'affaire, il n'y a pas de souci, je critique pas Cam Newton. Jared Stidham en backup, ben oui en backup, mais est-ce que c'est un projet d'avenir? Donc forcément on se pose la question, est-ce qu'ils vont monter pour prendre un quarterback et puis ensuite quel quarterback? Après peut-être receveur, ils ont fait des bonnes signatures avec Nelson Agholor qui a connu une deuxième jeunesse avec les Raiders, avec Kendrick Bourne des 49ers, mais ça manque encore un petit peu peut-être de cible avec Edelman qui vieillit, avec Nkilari qui peine un petit peu à confirmer son statut de premier tour. Ensuite, peut-être un defensive tackle au milieu de la ligne. Ils ont peut-être ce besoin-là, moi, je trouve. Cornerback, il faut aussi y penser parce que Stephon Gilmore est dans sa dernière année de contrat. Alors, ok, ils ont Jesse Jackson, ils ont quelques bons joueurs, mais je pense que cornerback est un poste à adresser, tout comme le poste de safety. On a vu le rookie l'année dernière, Kyle Duggar, qui fait de bonnes choses, mais pour l'avenir, il faudrait peut-être un complément aussi. Devin McCourty n'est plus tout jeune.
Très bien, alors on va essayer de pas perdre nos auditeurs, donc on va partir sur deux scénarios possibles, mais le premier scénario, c'est forcément celui qui revient un petit peu plus souvent, mais du coup, ça sous-entend un effet domino qui serait différent. On l'a dit, les New England Patriots sont donc le 15e choix, ça fait partie donc, tu le disais lors des besoins, des franchises qui ont peut-être le plus besoin de quarterback, en tout cas, qui ont la possibilité d'en couver un derrière Cam Newton la saison prochaine. Si oui, jusqu'où tu les vois éventuellement monter et avec quoi dans la balance?
Alors ça c'est la question, tu vois, c'est à 1000 euros, à 1000 francs comme on disait à l'époque ou je sais pas, je sais pas jusqu'où monter, déjà pour quel quarterback, et puis même et lesquels vont partir, tu vois, là on voit que les 49ers a priori seraient sur Mac Jones, ce qui est déjà un petit peu surprenant, donc à voir ensuite, je sais pas, on parle beaucoup du choix numéro 4 d'Atlanta, c'est vrai que ça ferait sens, il y a un quarterback comme Justin Fields qui serait vraiment très séduisant, donc pourquoi pas jusqu'au pick numéro 4, mais c'est sûr ça reviendrait cher puisqu'il part du choix numéro 15, donc ça impliquerait forcément des choix de 2021 et de 2022, à voir.
Possiblement un deuxième tour de cette année, voire un premier de l'année prochaine.
Ah oui, même les deux, je pensais déjà un deuxième tour de cette année et au minimum un premier l'année prochaine si tu montes au pick 4 au minimum. Après, on a vu que là, les Panthers viennent de signer Darnold, donc a priori, ils seront plus dans l'optique de prendre un quarterback. Alors peut-être qu'ils peuvent attendre justement, voir si Détroit n'en prend un ou n'en prend pas un et ensuite faire affaire peut-être avec les Panthers juste avant les Broncos pour prendre un quarterback. Du coup, ça reviendrait un petit peu moins cher.
Ouais, alors après, ce qui est intéressant pour eux, je trouve, c'est que par rapport aux besoins qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire que si éventuellement, même si tu lâches un deuxième, admettons un quatrième, plus un premier de l'année prochaine, encore une fois, c'est juste contextuel, il te reste quand même, par exemple, une pelletée de troisième et quatrième tour, sachant que on parlait des receveurs, on parlait des linemen défensifs, des defensive backs, ça reste malgré tout des postes assez profonds et assez homogènes. Donc, tu as quand même la possibilité, en allant chercher un quarterback haut, d'avoir derrière la possibilité de recruter des joueurs qui, sans être forcément titulaires indiscutables dès le début, pourraient se révéler assez vite et intégrer un rôle de starter à moyen terme.
Ah oui, je suis 100% d'accord. Surtout qu'on voit que les Patriots, ce qu'ils font, c'est vrai que souvent, les premiers tours de draft, enfin souvent, c'est pas toujours des réussites. Parfois oui, mais parfois non. Mais par contre, en fin de draft, ils sont vraiment très très forts. Ils arrivent toujours à trouver des joueurs, comme tu dis, des Dietrich Weiss sur la ligne. Ils arrivent toujours à trouver des defensive backs comme Jonathan Jones ou J.C. Jackson qui prennent assez tard. Donc oui, avec tous ces choix de draft, ils peuvent faire améliorer l'effectif avec des choix malins.
Alors ça, c'est un premier scénario en cas de trade-up. On est resté sur un scénario où il resterait en 15e choix. Ouais. Du coup, dis-nous à peu près qui aurait tes préférences au premier tour. Quelle direction tu prendrais si tu étais general manager des Patriots?
Je pense qu'un joueur comme Jalen Phillips, le defensive end de Miami, serait quand même séduisant pour l'équipe. Parce que ils ont quand même des joueurs qui font du pass rush. Hein. On pense à Chase Vinovic, il y a Calvin Noy qui est revenu. Ils ont signé Matt Judon. Mais ajouter un Jalen Phillips là, à cette équipe, dans ce système défensif-là, en plus avec Bill Belichick, quand même un maître de la défense, ça serait vraiment séduisant. Quoi. Et à 15, je pense qu'il serait parmi les meilleurs joueurs disponibles. Donc moi, je miserais sur Phillips de Miami.
Ce sera principalement pour une concurrence avec Chase Winovich en l'occurrence.
Oui, enfin une concurrence, une rotation. De toute façon, il faut une rotation. Hein, donc, oui, exactement.
Et du coup, ton quarterback, tu le prendrais plutôt au deuxième tour.
Et pourquoi pas? Regarde, on a un joueur comme Kellen Mond, par exemple. C'est un joueur qui est athlétique, qui jouait dans un pro style et dans la meilleure conférence universitaire. Ça fait 4 saisons qu'il y joue. Dès sa saison freshman, il a pris la place, je crois que c'est sur blessure, mais il a pris la place du titulaire et il est resté titulaire les 4 années qui suivent. Alors c'est sûr, la petite limitation, c'est que quand on l'a vu justement sa première année et sa seconde, on pensait que ce joueur avait le potentiel pour être un choix du top 10 de la draft. Bon, alors il a pas montré tout à fait ça, mais il a quand même montré de très bonnes choses. Il a un bras puissant, il a de la mobilité, il a joué de très gros matchs. Cette année, là, il a joué encore contre Alabama, contre Florida, contre Auburn, enfin il a une grosse expérience. Après, moi, je pense qu'avec un bon coaching et mettons une saison sur le banc à apprendre le système, à voir comment ça se passe, à ajuster au niveau de la vitesse, au niveau du placement de balle également, ça pourrait être un bon quarterback pour l'avenir.
Très bien. Bah, t'es plus optimiste sur le niveau de Kellen Mond à moyen terme que moi, mais en l'occurrence, Jimbo Fisher et Bill Belichick, il y a quand même des connexions. C'est pas d'un point de vue coaching, il va pas tout découvrir non plus, même si c'est pas Belichick qui gère l'attaque, mais en tout cas il saura à peu près comment l'utiliser et comment le bonifier dans le système offensif qui sera le sien. Donc pourquoi pas, ça peut se tenter en effet au deuxième tour.
Regarde, Jalen Hurts a été pris au deuxième tour l'année dernière, oui. Ça nous a un petit peu surpris. Mais Kellen Mond, est-ce qu'il est moins bon que Jalen Hurts? Moi je pense pas. On peut même penser à Dak Prescott quand il est sorti de Mississippi State, c'était un petit peu le même style. Alors Prescott est un petit peu plus costaud certes, mais c'était voilà un quarterback qui montrait de très bonnes choses, mais qui manquait de régularité, un quarterback qui avait de la mobilité. Et puis finalement, pour un troisième tour, il se révèle être un titulaire en NFL. Donc pourquoi pas un Kellen Mond?
On passe au troisième tour, on en revient à cette question notamment que tu évoquais tout à l'heure en début d'émission sur la profondeur, sur le backfield défensif. Tu les vas prendre un defensive back polyvalent quelqu'un que les auditeurs de TDA connaissent, puisqu'il s'agit du Québécois des Minnesota Golden Gophers, Benjamin Saint-Just.
Oui, mais c'est un très bon joueur, ce Benjamin Saint-Just. Hein. Il avait fait une saison 2019 superbe déjà. Alors après, en 2020, c'était plus difficile, mais en même temps, c'était plus difficile pour toute l'équipe de Minnesota. Mais en 2019, il avait été très bon. Là, il a fait un pro-day, mais extraordinaire. Il a couru encore en 4.39, le 40 yards. Je veux dire, il y a très peu de cornerbacks qui font ça. Au combine de 2020, de mémoire, il n'y avait que CJ Anderson qui avait fait ce temps-là. Et Javelin Guidry aussi. Mais bon, ce n'est pas le même type de cornerback. Donc, pour un bon cornerback, il va très vite. Il est grand, il est athlétique. C'est quelqu'un, on l'a entendu dans son interview avec toi, il est humble, il est travailleur. Et puis, en plus, voilà, il a ce gabarit qui lui a permis de jouer cornerback à l'université. En plus, il a joué à l'extérieur et en slot également. Et il pourrait également passer safety. Donc, du coup, quand tu vois cette équipe avec McCourty qui est vieillissant, avec Gilmore qui a la dernière année de contrat, tu te dis, tu peux avoir ce joueur-là et on ne sait jamais comment il se développe. Il pourrait prendre l'une des deux places. Moi, je le verrais bien aux Patriots. Et je le verrais bien au troisième tour. Parce que c'est vrai que souvent, je le vois au quatrième ou même plus tard. Mais moi, je pense que ce joueur-là, quand on voit ses mensurations, sa production universitaire et son prodé, et au troisième tour maximum. Hein.
Oui. De toute façon, lui avait parlé d'un top 100, qui était a priori voilà. L'objectif ouais. Minimum et ce qui me paraît largement atteignable. Mais je te rejoins, oui, un troisième tour, vu les qualités athlétiques et sa production du côté de Minnesota, c'est pas ce qui me surprendrait le plus. En plus, tu l'as dit, ouais, du côté des Patriots, pour un joueur qui est travailleur, très franchement, je pense que ça peut être le meilleur environnement pour lui. Et oui, en plus, alors ça, il apportait pas spécialement énormément de crédit, mais oui, enfin, il y a eu des rencontres, hein. Il y a pas mal de rencontres d'ailleurs entre les Pats et Saint-Just, même si, voilà, c'est à prendre avec des pincettes, encore une fois, les écrans de fumée, tout ça, mais il peut y avoir un intérêt très clairement, et ouais, au troisième tour, c'est pas ce qui me choquerait le plus, surtout pour le poste de corner que tu évoquais tout à l'heure. Parce qu'en l'occurrence, c'est pareil, hein, on parle de Jesse Jackson, alors qui a eu un tender sur lui, mais qui n'est pas signé officiellement. S'il y a une franchise qui s'aligne éventuellement, qui met un bon magot, entre guillemets, pour aller le récupérer, c'est possible qu'ils aient malgré tout un besoin sur un poste de cornerback. Donc là, je te rejoins totalement, c'est sûr que Benjamin Saint-Just, ça aurait une certaine logique en ce sens. On passe à ton sleeper. Un joueur qui m'est cher, et on revient en attaque avec ce fameux poste de receveur qui ne ferait pas tâche du côté de Foxborough.
Ouais, avec Shai Smith, receveur de South Carolina. Alors c'est un receveur plutôt prévu dans le slot, mais c'est parfait, moi je trouve, dans le système des Patriots. On l'a vu, les dégâts que fait Julian Edelman depuis des années, sauf que Julian Edelman, je pense qu'il sera toujours bon en 2021, mais il est pas éternel. Donc du coup, avoir quelqu'un pour jouer en rotation avec lui, pour apprendre aussi de voir comment il se prépare, comment il court ses tracés, il va progresser, du coup, en le voyant, Shai Smith, et puis prendre la relève ensuite, dans un an, dans deux ans, c'est un très bon joueur. Alors c'est vrai qu'il est pas très grand, c'est vrai qu'il joue beaucoup dans le slot, mais il est costaud, il est petit mais costaud, quoi. Si on reprend une pub de l'ancien temps, c'est vraiment, il a des bonnes mains, il court de bons tracés, il a pas perdu contact, et puis c'est quelqu'un de fiable, hein. Ça fait 4 saisons qu'il joue avec South Carolina, donc dans la meilleure conférence universitaire, et il est productif depuis 4 saisons. Moi je trouve qu'il a vraiment le profil, c'est vraiment le typique bonne affaire des Patriots qu'ils vont faire, mettons, en fin de 4e ou 5e tour, quoi.
C'est ça, c'est un joueur qui a fait ses classes, notamment derrière Deebo Samuel et Brian Edwards, qui a réussi malgré tout à engendrer pas mal de snaps, et oui, dont on a vu la pleine production en 2020. Après, oui, non, c'est sûr qu'il y a une bonne base qu'il faut exploiter, mais là encore, on parle du coaching staff des Pats, qui est parfaitement capable d'en tirer quelque chose. Et tu le disais, je ne suis pas persuadé, en effet, vu ce qu'on a vu de Cam Newton l'année passée, qu'on parte sur une attaque hyper verticale où ça va être du jeu profond à outrance. Donc je pense que même avec un profil de slot receiver, du moment que c'est un joueur, du moment que ça peut être un joueur capable de se démarquer dans les espaces intermédiaires pour permettre aux Pats d'engendrer les first down et du coup de gagner constamment du terrain pour atteindre l'en but adverse, je pense que c'est pas forcément un profil rédhibitoire pour permettre aux Pats d'avoir un peu plus de profondeur et d'efficacité au niveau des cibles. Très bien, on a fait le tour, en tout cas sur cette situation liée aux Patriots. N'hésitez pas à nous laisser vos avis, bien entendu. Encore une fois, on se doute qu'il y aura une forte possibilité malgré tout de trade-up, hein, même si ce n'est pas dans les traditions des Pats, mais ça va être en tout cas quelque chose d'assez intéressant à suivre. Cette chasse au quarterback restante va nous tenir en haleine pendant tout le reste de ce mois d'avril. Merci encore Jean-Michel, et on se retrouve dès demain, notamment pour parler des Minnesota Vikings. D'ici là, passez une très bonne journée et une très bonne semaine. Salut à tous.
Ciao tout le monde.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.